Bonjour, je suis Véronique Brard et j'enseigne le Voice Dialogue, le dialogue avec la voix. Ce podcast est le quatrième d'une série qui s'adresse plus particulièrement à ceux qui veulent apprendre ou approfondir le Voice Dialogue. Dans le premier podcast, nous avons exploré le critique intérieur qui mine tant et tant de personnes. Dans le second, je vous ai donné un aperçu des lois qui gouvernent notre psyché. Dans le troisième, je vous ai parlé du mandorla comme symbole de l'ego conscient. L'ego conscient étant ce que nous cherchons à développer lorsque nous pratiquons le Voice Dialogue. Avant d'approfondir dans un prochain podcast cette notion d'ego conscient, dans celui-ci, je vais revenir aux bases, les copersonnalités et la façon dont elles sont structurées. Pour commencer, je vais vous lire une citation de Al Stone, qui avec sa femme, Sidra, a été à l'origine du Voice Dialogue, de la psychologie des copersonnalités et de celle de l'ego conscient. Al nous a quittés en mai 2020, à l'âge de 93 ans. Sidra est toujours vivante et vit à Albion, en Californie. Voici ce que disait Hal avec le feu qui le caractérisait. Nous sommes faits de copersonnalités différentes, et ces copersonnalités sont réelles. Comment les gens peuvent-ils continuer à vivre sans comprendre que nous sommes faits de copersonnalités différentes et que ces copersonnalités déterminent notre destin et nos prises de décision ? Je peux encore me souvenir de la toute première fois où Sidra et moi avons dialogué avec une voix. Je me souviens de l'excitation que nous avons tous les deux éprouvée lorsque l'enfant préverbal a émergé et nous a soudain plongé dans un monde différent. Ces copersonnalités existent en chacun de nous et elles sont réelles. Il est dangereux pour nous, pour notre civilisation, de continuer à nous enfouir la tête dans le sable et d'agir comme si notre volonté, notre mental, notre contrôle étaient tout ce que nous sommes réellement. C'est un fantasme dangereux. Fin de la citation. Nous sommes multidimensionnels à plus d'un titre et l'aspect le plus simple de cette multidimensionnalité est l'expérience de ces différentes voies à l'intérieur de nous. Prenons un exemple inspiré d'un article de Suzanne Schwartz-Sennstad, article que je cite d'une façon beaucoup plus complète dans le bulletin de Voice Dialogue numéro 3. C'est lundi matin et Philippe arrive au travail avec une demi-heure de retard. Ce qui se passe dans sa tête ressemble à ça. En retard, encore. Je ferais mieux de commencer par ce travail de statistique. J'ai dit qu'il serait prêt vendredi. Mais j'ai pas envie de faire ça maintenant, c'est tellement ennuyant. Ah, je vais commencer par dessiner la couverture de ce rapport, quelque chose de très gai. Quel flemmard je fais, toujours envie de m'amuser, jamais envie de travailler. Mais pourquoi donc ai-je dit que je ferais ce stupide rapport ? Bon, ça faisait plaisir à l'équipe. Et puis comme ça, c'est moi qui contrôle le budget. La plupart d'entre nous peuvent reconnaître qu'il existe là, dans ce discours intérieur, des copersonnalités différentes qui toutes disent « je ». Chacune de nos copersonnalités s'exprime toujours en « je ». C'est pourquoi il faut souvent un dialogue avec une personne extérieure pour reconnaître que ces différents « je » sont en fait différentes personnes à l'intérieur de nous. Ici, nous pouvons citer « l'actif, au travail, fait ce rapport ». L'enfant rebelle, non, je n'ai pas envie. L'enfant créatif, ah, je vais dessiner une belle couverture. Le critique intérieur, flemmard. Le gentil, si je fais ce travail stupide, l'équipe va m'apprécier. Et enfin, le compétitif, si je le fais, j'ai la maîtrise du budget. Être informé, c'est avoir le pouvoir. Ces différents jeux correspondent à des parties différentes de Philippe. Et nous pouvons dire que certains de ces jeux vivent dans un univers et des dimensions différentes les unes par rapport aux autres. Nous nommons en voice dialogue ces jeux des copersonnalités pour traduire l'anglais self ou au pluriel selves, les soi-même, ce qui n'est pas très pratique en français. Nous sommes composés de nombreuses copersonnalités et vivons dans de nombreuses dimensions et temporalités différentes. Il est possible d'objecter qu'une telle théorie fragmente la personnalité. Dans notre perception et expérience, notre personnalité est déjà fragmentée. Notre tâche est d'en devenir conscient et d'aller vers une unification qui permette à chaque copersonnalité d'avoir sa place, petite ou grande. Une évidence mène à reconnaître ces différentes parties en nous. Les sentiments contradictoires qui apparaissent lors des événements importants. Plus l'émotionnel entre en jeu dans une situation, plus nous pouvons éprouver une variété d'émotions ou de sentiments différents. Prenons l'exemple d'une femme dont la fille unique quitte le foyer. D'un côté, elle aura un sentiment de soulagement. Je suis tellement impatiente de vivre à mon rythme. De l'autre, elle ressentira un sentiment de perte. J'aurais voulu qu'elle ne parle jamais. J'ai tellement de plaisir lorsqu'elle est là. Ici, on peut reconnaître deux parties chez cette femme très différentes l'une de l'autre. Autre exemple, un homme à qui l'on offre une promotion, un poste clé dans la hiérarchie d'une entreprise. Inutile de dire qu'une part de lui est excitée, motivée, impatiente de relever le défi et de pouvoir accéder à l'autorité de leader qui va avec ce poste. Une autre partie de lui va regretter la rupture du lien amical avec ses collègues, rupture qui accompagne à peu près obligatoirement cette sortie du rang. Ces sentiments très opposés viennent en fait de copersonnalités très opposées. Alors reprenons les choses au début. Comment se construisent ces copersonnalités ? Tout part de notre vulnérabilité de départ. Nous sommes tous nés infiniment vulnérables. Le nouveau-né est sans défense, il dépend du monde des adultes pour survivre. Aucun autre animal n'est aussi dépendant de ceux qui prennent soin de lui et pendant si longtemps que nous le sommes, nous, les êtres humains. Cette dépendance est à la fois physique, psychique et émotionnelle. Elle va entraîner, dès nos plus jeunes années, la mise en place de l'une de nos tâches principales, inventer et développer des stratégies pour devenir autonome. Pour cela, nous allons construire une personnalité qui va nous permettre de protéger notre vulnérabilité. Nous allons acquérir des outils pour obtenir une certaine maîtrise personnelle, un certain pouvoir en fait. Tout nouveau-né est un être humain unique. Il vient au monde avec une constitution génétique propre qui va déterminer sa physiologie ainsi qu'une partie de son comportement et avec une qualité spécifique d'être que Hal et Sidra nomment l'empreinte psychique. On pourrait considérer cette empreinte psychique comme la partie de l'âme qui porte qui nous sommes venus être dans le monde. En plus de cette empreinte psychique fondamentale et unique, le nouveau-né possède le potentiel de développer des schémas d'énergie dont l'origine sont les archétypes propres à la race humaine. Une fois personnalisé, nuancé, épuré ou complexifié, ils constitueront sa personnalité. Ce nouveau-né est aussi le réceptacle d'une âme et d'un esprit qui le relie à la source. L'origine des copersonnalités sont donc tous les archétypes propres à la race humaine que nous allons décliner dans toutes les nuances possibles. C'est notre part de création personnelle. Plus certains archétypes qui ne viennent pas de notre bagage humain, mais sont plutôt en lien avec la présence de l'âme ou de l'esprit. le développement de la personnalité commence in utero. Puis, le nouveau-né va apprendre qu'il doit établir une certaine dose de contrôle sur son environnement pour éviter le déplaisir. Cela va venir très très vite. Le développement de ce contrôle constitue déjà l'évolution de sa personnalité. Cette dernière se développe comme une façon de faire face à son extrême vulnérabilité. Plus l'enfant développe sa personnalité, plus il s'éloigne pourtant de cette empreinte psychique qui est la sienne. Il apprend à devenir aussi puissant que possible et c'est nécessaire. S'éloigner de la vulnérabilité, avoir et obtenir un certain pouvoir est nécessaire. Le voyage de retour se fera plus tard. Le nourrisson apprend, par exemple, que maman est très heureuse quand il sourit. Il peut aimer sourire, mais maintenant, plus important encore que son propre plaisir, c'est l'expérience que ce sourire a des conséquences. Il amène de la chaleur, de la souplesse, de l'ouverture dans le corps et le champ énergétique de maman. Quand ses pleurs font tout le contraire. Celui qui aime plaire, le gentil, le pleaser, va naître. L'agressif, lui, sera encouragé ou découragé selon que l'agressivité va être récompensée ou punie, selon qu'elle est considérée par l'entourage comme un moyen de maîtriser le monde ou comme un comportement négatif ou antisocial. Dans certains cas, l'enfant peut essayer d'établir un certain contrôle sur son environnement en se retranchant dans le rêve. Les fantaisies diurnes peuvent constituer un facteur essentiel de la personnalité. Par exemple, un jeune garçon dont les parents se sont séparés développe tout un imaginaire où il se retrouve dans un sous-marin immergé en eau profonde. Il passe de plus en plus d'heures dans ce monde imaginaire. C'est ce qu'il peut faire de mieux pour tenter de se sentir mieux. Pour parler de façon objective, il essaie de se soustraire à la souffrance. Sur un autre niveau, il a trouvé le moyen de faire face à son extrême vulnérabilité. Au contraire, un autre enfant réalise que réussir à l'école est la clé pour maîtriser son environnement et protéger ses copersonnalités vulnérables. Il va développer son côté ambitieux qui ira de pair avec un caractère agréable. Les copersonnalités ne sont pas des concepts. Ce sont des réalités énergétiques, des personnes à part entière qui demandent à être traitées avec respect lorsque, en voice dialogue, nous désirons leur parler. Sinon, elles se retirent. Ce sont des énergies qui occupent le corps et le mettent dans un état vibratoire particulier, un état d'être, un état d'âme, un état physique, émotionnel ou non émotionnel, mental ou non mental, spirituel ou non spirituel. Ces énergies nous donne une certaine façon d'être ou d'agir, de penser, de voir les choses et le monde, et nous-mêmes. Dans la vie ordinaire, nous passons de l'une à l'autre tout au long d'une journée. Toutes devraient assumer un rôle et une fonction au sein de notre personnalité. Le tout est peut-être que ça devienne plus conscient. Prenons deux exemples. Marc vient d'une famille où le rationnel était extrêmement valorisé. Son père l'a entraîné à réfléchir et à ne pas croire n'importe quoi. Marc est ingénieur et dans son travail, son analyste rationnel, que l'on pourrait aussi nommer son cognitif, est aux commandes. C'est la pause de midi, Marc lit le journal en attendant son ami. Son analyste est très présent et il passe soigneusement en revue les informations données dans les articles qu'il lit. Arrive dans le café avec beaucoup de retard la femme dont il est amoureux, Martine. Brusquement, Mark enlève ses lunettes et se redresse, tous les sens en alerte. Ce n'est plus le même homme. L'amoureux et le sensuel ont succédé à l'analyste. Ses énergies lui donnent un je ne sais quoi de félin et d'attractif. Martine s'assoit à sa table et lui raconte une histoire à dormir debout pour justifier son heure de retard. Plus d'analyste, plus de rationnel. Marc est sous le charme. Son sexuel bloque son cerveau. La partie contre laquelle son père a tant lutté, celui qui fait confiance les yeux fermés, est maintenant présente. Il est possible que plus tard, dans l'après-midi, son rationnel revienne, mécontent d'avoir perdu plus d'une heure à attendre Martine et tout à fait insatisfait de l'excuse donnée. Mais pour l'instant, Marc accepte cette excuse, les yeux fermés. Parlons maintenant de Marie. Marie a été élevée dans une famille nombreuse et très rapidement, elle a compris que pour que tout se passe bien pour elle, elle devait venir en aide à sa mère. Elle a développé une copersonnalité qui sait prendre soin des autres et prendre leurs besoins en charge. Cette énergie de mère est devenue sa partie primaire. En se développant, cette copersonnalité a mis de côté son opposé. Nommons-le l'égoïste, ou celui qui sait prendre soin de lui. L'égoïsme est devenu le mal absolu pour Marie, identifié à sa partie primaire, celle qui donne, celle qui prend soin de l'autre. Répétons-le, l'égoïste a cependant une qualité, il sait s'occuper de lui, prendre soin de lui. Lorsque Marie, devenue enseignante, arrive en thérapie à 40 ans pour une dépression grave, cette identification à la mère qui prend soin des autres mais jamais d'elle-même va être mise en évidence. Les cadeaux, les atouts, la richesse de cette copersonnalité de mère vont être soigneusement répertoriés et valorisés. Mais Marie va devoir aussi apprendre qu'une autre partie d'elle complètement opposée, celle qui aime prendre soin d'elle, frappe à la porte depuis longtemps sans pouvoir être écoutée. C'est pourtant cette partie qui est l'équilibre dont sa vie a besoin. Ne plus être identifié à sa partie mère va lui permettre de garder à sa disposition tous les cadeaux de celle-ci, de la mère, et également de commencer à entendre les suggestions et conseils de cette autre partie d'elle davantage tournée vers son bien-être. Le second motif de demande d'aide de Marie est d'ordre privé. Selon ses dires, elle a épousé un égoïste parfait qui vient de l'abandonner pour une autre femme. Malheureusement, ce n'est ni une surprise ni un hasard. C'est une loi énergétique, nous l'avons vu dans le podcast sur les lois énergétiques psychiques. Toute partie primaire va épouser sa partie renier, et cela pour le meilleur et pour le pire. Nos copersonnalités sont reconnaissables et définissables grâce à leur champ énergétique. C'est ce qui fait qu'il est possible de devenir conscient de leur présence. En tant que réalité énergétique, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Toute copersonnalité est à la fois un atout pour la personne et un piège lorsqu'elle n'est pas équilibrée par son opposé. Dans une séance de Voice Dialogue, le facilitateur va interroger ces différentes parties au fur et à mesure qu'elles se présentent et nous allons en apprendre beaucoup plus long sur elles. Ces copersonnalités sont aussi diversifiées que nos corps ou nos visages. Elles se ressemblent, mais il n'en existe pas deux identiques. Toutes vont aussi se diviser à l'infini, si bien qu'il est très difficile d'en faire un catalogue. Par exemple, pour la mère, on peut très bien avoir la mère aimante, la mère critique, la mère cosmique, la mère impersonnelle, la mère rationnelle, la mère sacrificielle, la mère océanique, la mère dévouée, la mère épuisée. Et toutes ces mères auront des personnalités bien différentes les unes des autres. Les reconnaître énergétiquement chez soi permet de les reconnaître chez l'autre. Les nommer peut aussi bien venir du facilitateur que du facilité. Le facilité, cependant, a le dernier mot et il peut tout autant nommer cette mère qui apparaît du prénom de son choix. Et n'oublions pas qu'il y a aussi toutes nos copersonnalités ingérées, transpersonnelles, transgénérationnelles, qui viennent de nos pères, mères, arrière-grands-parents, etc. Je vais terminer là la première partie de ce sujet, les copersonnalités. Dans la seconde partie, nous verrons que ces copersonnalités sont toujours structurées en des parties que nous aimons, les parties primaires, celles que nous valorisons, et leurs opposés, des parties que nous refusons, celles que nous appelons les parties reniées. Nous verrons aussi que ce qui nous est demandé n'est pas de réintégrer dans notre personnalité l'extrême de ces parties reniées. Personne ne veut devenir un arrogant, par exemple, mais nous avons besoin d'une partie qui peut être fière de nous. Personne ne veut d'arpagon dans sa personnalité, mais nous devons tous développer un comptable. Donc à bientôt pour la deuxième partie. Merci de votre écoute.